18h30 ici à Paris, le débat du jour, c'est tout de suite avec vous. Romain, bonsoir.
Bonsoir et merci à vous Amélie. On va parler de l'insécurité en France ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car les faits divers font de plus en plus les gros titres des journaux en France. Pas plus tard que la nuit dernière, une bibliothèque a été incendiée par une voiture bélier à Grenoble, dans cette ville où précisément la semaine dernière, un bar associatif avait été touché par une attaque à la grenade. L'insécurité semble omniprésente en France, si l'on suit les médias, si l'on écoute les discours de nombreux dirigeants politiques. Mais qu'en est-il réellement? Notre question ce soir, est-ce que l'insécurité est en hausse en France? Comment différencier insécurité et sentiment d'insécurité? Pourquoi cette situation? Que dit-elle de notre société? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités à mes côtés en studio, Thierry Clair, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police. Et notre deuxième invité est en ligne avec nous, Julien Noble, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, ingénieur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, première question, c'est la question clé, en tout cas une des questions clés du débat. Que disent les chiffres de l'insécurité? Je posais la question d'abord à Julien Noble. Aujourd'hui en France, la question est vaste, Julien Noble, parce que les chiffres sont multiples sur ce sujet.
Oui, exactement. Décompose la question de savoir si l'insécurité, la délinquance augmente en France. En réalité, il nous faut deux prérequis. Le premier prérequis, c'est d'avoir des instruments de mesure fiables de ces phénomènes. Et le deuxième, c'est de pouvoir disposer d'une analyse sur le temps long. La grosse erreur qu'il faut éviter, c'est des analyses court-termistes, c'est-à-dire sur quelques mois, quelques semaines, voire quelques années. Or, et vous avez raison, c'est là où se situent les difficultés, c'est qu'on a aujourd'hui des ruptures dans les séries, dans tous les instruments qui nous aident à mesurer la délinquance, que ce soit les instruments utilisés par la police, la gendarmerie. On avait un outil qui s'appelait l'État 4001, qui a été entièrement refondé. Et du côté des enquêtes de victimation, c'est-à-dire des enquêtes menées en population générale, là encore, on a vu émerger une nouvelle enquête qui s'appelle l'enquête vécue et ressentie en matière de sécurité, administrée par le service statistique du ministère de l'Intérieur, et qui remplace une enquête que l'on nommait cadre de vie et sécurité, qui était menée par l'INSEE entre 2007 et 2021.
En gros, c'est compliqué d'avoir des chiffres précis, oui, sur l'insécurité en France aujourd'hui, c'est ça que vous voulez nous dire?
Alors, avoir des chiffres précis, on en a. Par contre, savoir si ça a augmenté, et notamment sur les périodes récentes, là, c'est plus compliqué.
Ouais. Ah, ça va être compliqué de répondre à la question. Alors, moi, j'ai, concernant le nombre de victimes de coups et blessures volontaires, une baisse de 13% par rapport qu'en 2023, ça c'est les derniers chiffres, par rapport à 2022. Et d'une manière plus générale, les atteintes aux personnes qui sont quasi stables, et ça c'est l'enquête que vous avez citée, vécue et ressentie en matière de sécurité, réalisée par le ministère de l'Intérieur.
Oui, alors, et le premier chiffre, vous le tenez d'où?
Alors, le premier chiffre vient aussi du ministère de l'Intérieur.
Oui, mais c'est les données de police ou les données de l'enquête de victimation?
C'était les données de la police.
Voilà. Alors, vous voyez, on a...
Il y a trop de sources, c'est ça?
Oui, on a deux grands types de sources. On a les données police qui sont des données qui traitent de l'activité policière, hein, et notamment que l'on retrouve à partir des dépôts de plaintes. Des concitoyens qui ont été victimes d'une atteinte viennent déposer plainte, et ces plaintes permettent effectivement une certaine mesure de la délinquance. Mais on y reviendra parce qu'en réalité, c'est une mesure biaisée. On ne mesure pas la délinquance avec les dépôts de plainte, on mesure des dépôts de plainte. Or, on sait que, pour tout un tas de raisons, certaines personnes ne vont pas déposer plainte.
Ouais.
Donc, est-ce que les dépôts de plainte, les données police mesurent bien la délinquance? C'est une vraie question. Concernant les enquêtes de victimation, vous donnez effectivement les chiffres de l'enquête vécue et ressentie en matière d'insécurité. Le problème, c'est qu'on a là une très jeune enquête. Une enquête qui a été menée en 2022 et qui est reconduit en 2023. Et on mène actuellement la troisième campagne. Et donc, vous voyez, on est là sur une évolution entre la première campagne d'enquête en 2022 comparée à 2023, ce qui fait des séries extrêmement courtes parce qu'on a beaucoup de mal à faire un rabouter, si vous voulez, les séries de la première VRS avec les dernières CVS.
Et c'est difficile d'avoir de la distance, de la hauteur, du recul avec le court-termisme sur ces questions d'insécurité et de délinquance. Vous avez commencé votre réponse par ce point-là, Julien Nobe. Thierry Clerc, qu'appelle-t-on l'insécurité et de la délinquance ? Il y a beaucoup de visages, c'est ça qui est compliqué aussi. On a dit qu'il y a beaucoup de sources pour donner les différents chiffres, mais il y a aussi beaucoup de formes d'insécurité en France aujourd'hui.
Bien sûr, il y a beaucoup de formes d'insécurité, beaucoup de formes de délinquance. Une chose est certaine, c'est que en ce qui concerne les données chiffrées, elles nous donnent simplement une photographie en fait chiffrée, objective, on va dire, sur le dépôt de plainte. Bien sûr, on est tout à fait conscient, en plus en tant que policier, qu'un certain nombre de personnes ne déposent pas plainte. Notamment, on le voit dans certains domaines, comme les violences sexuelles, par exemple, où il y a un nombre important de plaintes qui ne sont pas déposées.
Il y a 3%, je vais en écho à ce que vous dites, seulement 3% de victimes de violences sexuelles qui portent plainte. Et concernant les victimes de violences physiques hors vol, moins d'une personne sur cinq qui porte plainte. Donc finalement, déjà, les chiffres, on a commencé, ça fait 5 minutes qu'on parle des chiffres, ils ne veulent rien dire, les chiffres.
Alors non, en fait, on sait que c'est quelque chose de permanent, hormis par exemple sur les coups blessures volontaires. On se rend compte par exemple que depuis que la parole s'est libérée, depuis les années 2018-2019 notamment, après MeToo, on a un certain nombre de personnes qui font l'objet de violences intrafamiliales, notamment qui déposent plainte. Quand par exemple on a un chiffre, alors c'est vrai que l'augmentation, mais le nombre de plaintes, c'est à peu près 330, un peu plus de 336 000 dépôts de plaintes par rapport à des blessures volontaires. On sait que, pertinemment, qu'il y a 54% de personnes qui déposent plainte par rapport à des violences intrafamiliales dans ce domaine-là. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Sur les coups et blessures volontaires, on a une stagnation en 2024, mais on a eu une augmentation entre 2016 et 2024, annuellement, si on prend sur la durée, de l'ordre de 6%. Donc on a un chiffre qui est quand même élevé, et ça, il faut quand même en tenir compte. Les données statistiques aujourd'hui, depuis que le service de statistiques du ministère de l'Intérieur donc, fait une diffusion mensuelle, annuelle, avec Interstat, qui donne non seulement les données, mais commente les données, explique les données. Je veux dire, on n'a plus de polémique sur les chiffres. Souvenez-vous, il y a quelques années, systématiquement, on était dans des chiffres qui étaient donnés à tout va, sur tout et n'importe quoi. Depuis en tout cas que le SSMI diffuse et joue la transparence dans ce cadre-là, les chiffres sont ce qu'ils sont parce que tout le monde, et on l'a dit tout à l'heure, et tout le monde est d'accord là-dessus, tout le monde ne dépose pas plainte sur tous les sujets, mais cela étant, on a des données chiffrées en tout cas qui sont transparentes, qui sont publiées, qui sont à la connaissance de tout le public.
On a des données chiffrées, mais Julien Nobe, qui ne permettent pas aujourd'hui, on le voit bien ce soir, de dire si oui ou non la délinquance est en hausse en France. Est-ce que, à cause de cette situation-là, le sujet est devenu trop politique, trop incandescent, trop émotif, je dirais. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Tout à fait. Alors revenons d'abord, si vous voulez bien, sur les données, les données police. Je vais vous donner un exemple très simple. Et d'ailleurs, il a été évoqué par Monsieur Thierry Clerc, l'idée de cette atteinte là, que sont les atteintes à caractère sexuel ou sexiste. Effectivement, on les a vues exploser dans les données police ces dernières années. Depuis effectivement ces mouvements MeToo, balance ton porc, parce que ces mouvements ont permis une ouverture des oreilles et une libéralisation de la parole sur ces sujets. Ce qui a incité les femmes qui étaient victimes de ce type de faits à déposer plainte. Et donc, quand on regarde les données police, qui sont des données qui portent sur les plaintes, on a vu exploser ce type d'atteinte. Mais c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. On a là une explosion des dépôts de plaintes. Lorsqu'on regarde dans les enquêtes de victimation et que l'on demande à l'ensemble des femmes dans une population, enfin un échantillon représentatif de femmes dans une population donnée, de savoir si elles ont été victimes de ce type d'atteinte, les victimes, elles, enfin la proportion de victimes n'a pas évolué. Mais en tout cas, pas dans des proportions aussi importantes que dans les données police. C'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant à regarder uniquement les données police. Bon. Le deuxième élément, c'est effectivement celui que je vous rapportais. On a, nous, c'est le gros enjeu sur lequel on travaille actuellement. C'est aussi l'enjeu, d'ailleurs, du SSMSI. On travaille ensemble, d'ailleurs, sur ces questions. Et le gros enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment on peut éventuellement, et on espère qu'on arrivera à le faire, mais à rabouter, si vous voulez, les données des différentes enquêtes de victimisation lorsqu'il y a une rupture. Alors, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, pourquoi il y aurait une rupture ? Eh bien, parce que, en fait, on a changé plusieurs éléments méthodologiques, et notamment le mode d'administration. Le mode d'administration, c'est quoi ? C'est le fait, c'est la manière d'administrer une enquête. Et ça, on a plusieurs modes d'administration, soit en face à face, comme on le faisait avec la précédente enquête, c'est-à-dire un enquêteur vient chez vous, tape à la porte et vous administre le questionnaire, soit par Internet. Principal mode d'administration de la nouvelle enquête vécue et ressentie en matière de sécurité. Mmh. Or, vous prenez exactement le même questionnaire, vous changez uniquement le mode d'administration, eh bien, on sait que les taux de prévalence, c'est-à-dire la proportion de personnes qui vont déclarer des atteintes, est supérieure avec le mode d'administration par Internet par rapport au mode d'administration en face à face. Vous voyez, c'est face à ce genre de problème complexe mmh. auquel nous sommes confrontés. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de mal dans la période récente à dire si la rupture, ces évolutions que l'on peut constater, sont des évolutions réelles de l'insécurité dans la société ou si elles sont des biais introduits par nos changements méthodologiques. Mmh, réalité, on a quand même, heureusement, je termine juste là-dessus, une enquête qui n'a pas bougé, qui est l'enquête Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France, qui est menée par l'Institut Paris-Région tous les 2 ans depuis 2001, et elle, dont la méthodologie n'a pas bougé, hein, et ce que montre cette enquête, c'est que la victimation, la victimation, c'est le fait d'être victime, hein, d'un vol, d'une agression, reste stable et même plutôt tendance à diminuer sur certaines atteintes.
Il y a un décalage important entre délinquance subie et délinquance ressentie. On pose ce soir la question de est-ce que la délinquance est en hausse en France ? Et on comprend bien déjà dès le début de cette émission que ce n'est pas évident, qu'il n'y a pas une réponse tranchée. Or, je reste avec vous, Julien Noble, vous qui êtes sociologue, je pense que pour une grande partie de la population, si on pose cette question est-ce que la délinquance est en hausse en France, ils vont dire oui. Comment expliquer ça ?
Exactement. Exactement. C'est très frappant. Lorsque vous posez cette question, la scission n'apparaît pas entre les personnes qui pensent que la délinquance a augmenté et ceux qui pensent que la délinquance n'a pas augmenté. Elle est entre ceux qui vont penser qu'elle a beaucoup augmenté et ceux qui vont penser qu'elle a augmenté un petit peu. Mais les deux, là, ces deux items rassemblent à eux seuls près de 90% des réponses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que la... Alors ça, c'est une très, très bonne question. Je pense, moi, personnellement, mais il va falloir qu'on se penche sur cette question qu'on apporte des réponses à ça, mais je pense qu'on est beaucoup plus confronté, finalement, à la violence dans la société, mais y compris de manière indirecte. Hein. Des proches à qui on raconte des expériences, ça a toujours existé dans la famille, lors de repas de famille, etc. Mais aussi, et maintenant, je pense, avec la diffusion des informations via les réseaux sociaux. Hein. Vous savez, on a des algorithmes qui permettent aussi de renforcer les types d'informations qu'on a commencé à regarder, etc. etc. Et je pense que tout ça tend à poser une confirmation sur ce que l'on pense déjà être vrai, c'est-à-dire le sentiment que la société française est de plus en plus violente.
Et ça ne renforce pas l'insécurité, mais le sentiment d'insécurité.
Oui, par pratique particulière. Ouais. L'une de ces deux dimensions. Vous savez que le sentiment d'insécurité, c'est deux choses. C'est la préoccupation pour la délinquance et l'insécurité personnelle. La préoccupation pour la délinquance, c'est un jugement de valeur qui consiste à placer la délinquance au premier rang des problèmes à résoudre devant d'autres types de problèmes. Le réchauffement climatique, la pauvreté, voilà. Ça, on l'a vu effectivement augmenter sur la dernière période. Je vais vous donner les résultats qu'on mène avec le CESDIP et avec Sciences Po Paris, une petite enquête.
Rapidement.
Auprès d'un échantillon de 2400 personnes représentatives de la population française. En 2022, on était à 14% des personnes qui plaçaient la délinquance au premier rang des problèmes à résoudre. En octobre 2024, on est passé à 23%. Donc ça, on voit que ça augmente.
Ouais.
Et quand même, pour terminer très rapidement, le sentiment d'insécurité, c'est aussi un autre aspect, c'est l'insécurité personnelle. Là, c'est la peur plus concrète d'être victime d'un vol ou d'une agression, et elle augmente assez peu.
Ouais. Alors, il y a cependant en France plus d'une personne sur cinq, 21% qui se déclare se sentir de temps en temps ou souvent en insécurité dans son quartier ou dans son village. Thierry Clerc, est-ce qu'il peut y avoir un sentiment d'insécurité qui augmente alors que l'insécurité n'augmente pas ? Est-ce que c'est possible ? Ça peut être manière de répondre à une question ce soir.
Bien sûr que ça peut être possible, tout à fait. Mais également,
comment on peut expliquer ça ?
Non, mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que l'insécurité, elle se mesure par la nature aussi des actes, par la résonance qui est donnée, la résonance, par exemple, médiatique, par les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de diffusion, de films, de violences, en fait, qui sont commises. Donc, vous avez le son, vous avez l'image, et vous avez des diffusions sur des milliers, voire des millions, quelquefois, de personnes, en fait, qui vont prendre en compte des insultes, des personnes vraiment violentes, qui veulent en découdre à tout prix, etc. Donc, c'est vrai qu'on a effectivement cette prise en compte par le lecteur d'un article, mais par quelqu'un qui va entendre, qui va voir, qui va être un témoin, quelque part, d'une scène extrêmement violente. Donc, ça donne une résonance supplémentaire à des faits qui sont déjà des faits violents.
Est-ce que ça veut dire que notre société est de plus en plus violente ? C'est-à-dire que la délinquance n'est peut-être pas en hausse, mais la société est de plus en plus violente ?
Bien sûr, mais il faut se poser la question. J'ai retrouvé hier un article du Monde, qui date de 2021, qui est relativement récent en tout cas, et qui précisait que les agressions contre les policiers ont doublé en l'espace de 20 ans. Les agressions contre les policiers. Donc, il faut se poser la question aussi, quel est le statut social ? Le statut social du policier a régressé au fil des années, comme celui de l'instituteur, de toutes les personnes en fait, qui représentaient quelque part, entre guillemets, une autorité dans notre société. Donc, bien sûr, cette violence est accrue. Le policier, souvent, est pris comme quelqu'un d'une bande rivale. On le voit souvent dans des quartiers, lorsque nos collègues interviennent, ils ne sont pas pris comme des personnes dépositaires de l'autorité publique, de l'État, mais comme des gens qui viennent en fait empêcher de tourner en rond, qui viennent contrarier un petit trafic de stupes, un petit trafic de recel, etc. Bref, et qui viennent, en fait, qui sont pris et ressentis, en tout cas, vus comme des personnes d'une bande rivale.
Ils ne sont pas d'augure à faire baisser, justement, ces policiers, le sentiment qu'on évoquait d'insécurité. Emmanuel Macron a promis, par exemple, qu'il y ait beaucoup plus de patrouilles de police qu'on pourrait voir sur la voie publique. Est-ce que ça, c'est un enjeu important ?
C'est un enjeu important, bien sûr, mais c'est vrai qu'on voit au travers des chiffres et des études qui sont faites que, par exemple, le fait pour des citoyens, en fait, d'être en contact avec des patrouilles de police ne les rassure pas pour autant. Donc, si vous voulez, il y a des zones, par exemple, où les gens voient beaucoup moins de patrouilles de police que dans d'autres zones. Et pour autant, ils ont un sentiment d'insécurité qui est beaucoup moins fort. Donc, quelque part, tout ça, je pense qu'il faut prendre en compte le contexte, l'urbanisme, quelles sont les incivilités commises et dégradations sur le domaine public. Est-ce que vous avez des bris de verre à côté des véhicules, par exemple, qui démontrent qu'il y a eu, par exemple, un véhicule dont la vitre a été brisée, qui a été roulottée, etc. Donc, il y a cette prise en compte par les citoyens qui va faire qu'effectivement, on va ressentir plus durement, en tout cas, les phénomènes d'insécurité. Et tout ça, ça va bien au-delà des chiffres. Quand vous avez, par exemple, 5 personnes qui font un petit trafic de stupéfiants, un petit point de deal, vous avez une interpellation qui se fait, après enquête, surveillance, ça va faire 5 bâtons en termes de statistiques. 5 personnes interpellées. Mais pour les gens qui vivent dans le quartier, qu'ils auront vu pendant des semaines sur leur trafic, ça ne sera pas 5 personnes seulement. Ça sera un trafic qui va amener de l'insécurité, qui va amener du mal-être en fait, dans le quartier. Et véritablement, ça, c'est un ressenti qui va aller au-delà, bien au-delà en fait, du chiffre qui nous sera donné.
Est-ce que le ressenti n'est pas plus fort aussi parce que la forme de violence de l'insécurité en France aujourd'hui, elle est de plus en plus forte. J'ai cité par exemple, la nuit dernière, une bibliothèque a été incendiée par une voiture bélier en France, à Grenoble. La semaine dernière, un bar associatif qui a été touché par une attaque à la grenade.
Oui, tout à fait. On a des phénomènes.
Ça, c'est une évolution.
Oui, une évolution également avec les armes blanches d'ailleurs. Un nombre très important de jeunes individus qui sont porteurs d'armes blanches d'ailleurs, qui souvent veulent en découdre entre eux d'ailleurs, y compris entre bandes rivales. Et c'est vrai que, alors il y a des outils par exemple qui ont été donnés, comme l'amende forfaitaire délictuelle aujourd'hui, qui permet à tout policier d'appréhender simplement en déclinant une amende forfaitaire délictuelle à une personne qui aurait été en possession d'une arme blanche, par exemple, et de saisir l'arme directement, et donc de gagner du temps, on va dire, et de gagner de la présence sur le terrain. Mais ça étant, effectivement, on a des phénomènes violents, de plus en plus, de façon beaucoup plus récurrente. On a aussi du trafic de stupéfiants, de la consommation de trafic de stupéfiants, des consommateurs qui, eux-mêmes, d'ailleurs, deviennent souvent des vendeurs, parce que aussi ils ont besoin, effectivement, d'argent pour subvenir justement à leur addiction. Donc tout ça, il y a des effets d'entraînement, il y a des
évolutions.
Et effectivement, il y a une évolution qui est constante. Et c'est pour ça que aussi la lutte contre le trafic de stupéfiants est une lutte qui doit être menée, qui est une lutte vraiment importante.
Ouais. Dernière question avant de passer à la deuxième partie de notre débat. Thierry Clerc, vous qui êtes secrétaire général adjoint du syndicat Unissa Police, est-ce que les moyens de la police sont adaptés aux enjeux aujourd'hui de la délinquance en France ?
Alors les moyens, non, si vous voulez, on a un certain nombre de moyens à plusieurs niveaux qui sont insuffisants. Je pense à la procédure pénale, parce que vous avez dans les services de police, des services d'intervention qui font de la voie publique. Et lorsqu'il y a des interpellations, les individus qui sont interpellés sont présentés à des officiers de police judiciaire qui travaillent donc dans des services d'enquête. Et quand on voit aujourd'hui la complexité, par exemple, de la procédure judiciaire, qui n'a cessé d'avoir des normes exponentielles au fil des années, une procédure qui est très très lourde, on se rend compte qu'effectivement, on a une procédure qui n'est pas du tout adaptée à la réalité du terrain. On perd du temps sur des procédures où, quelquefois, on n'a que des civilement responsables à entendre. On n'a pas d'infraction pénale. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le fait aussi de prendre l'ensemble des plaintes. Donc, on a des services d'investigation qui sont aujourd'hui engorgés par des procédures et qui n'arrivent pas du tout aujourd'hui à traiter l'essentiel. Et ça, c'est véritablement important, parce que quand vous avez des services de voie publique qui font le boulot, etc., et quand vous avez des services enquêteurs qui sont prêts à faire le boulot, mais qui sont submergés par des dossiers, en fait, qui ne vont déboucher quasiment sur rien en matière judiciaire, je veux dire, oui, il y a véritablement des choses à faire.
L'insécurité est-elle en hausse en France ? Les faits divers se sont multipliés ces derniers temps. En tout cas, ils ont été fortement relayés par les médias. J'évoquais l'année dernière cette bibliothèque incendiée par une voiture bélier à Grenoble, un bar associatif touché par une attaque à la grenade également à Grenoble la semaine dernière. Et que dire de faits beaucoup plus graves, comme la mort de cet enfant de 11 ans, Louise. Il y a quelques temps, le suspect qui avait dit avoir voulu la racketter et pris de panique quand elle s'est mise à crier, il l'a assassiné. Mes deux invités sont Thierry Clerc, secrétaire général adjoint du syndicat Unissa Police, et Julien Noble, sociologue, ingénieur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. On a soulevé le sentiment d'insécurité qui est fort en France dans la première partie du débat, notamment face à des chiffres qui ne sont pas évidemment en hausse. C'est pas évident de dire que les chiffres indiquent une forte hausse de l'insécurité en France. Dès lors, je vais vous poser la question, Julien Noble, vous qui êtes sociologue, comment est-ce qu'on peut faire baisser ce sentiment d'insécurité en France ?
Eh bien, je rebondirai sur ce que vient de dire Thierry Clerc. Je suis parfaitement d'accord avec lui sur l'idée d'un diagnostic territorial. Et d'ailleurs, vraisemblablement, il faut que là, on travaille tous ensemble, main dans la main, c'est-à-dire les sociologues spécialistes de ces questions, les policiers, toutes les personnes qui sont en charge de ces questions de sécurité, pour essayer d'établir des diagnostics précis et d'apporter des réponses concrètes. En n'oubliant pas l'évaluation des dispositifs que l'on apporte, ce que l'on fait trop rarement en France. On évalue très peu ce qu'on fait, et ça, c'est tout à fait dommageable. Donc je rejoins parfaitement sur ce point-là, notamment réaliser. Nous, on plaide énormément sur le fait d'essayer de réaliser des enquêtes à l'échelle territoriale, à l'échelle des villes, éventuellement à l'échelle des métropoles, pour essayer de comprendre la nature des faits, d'abord, subis par les individus, et la manière dont ils sont ressentis. On l'évoquait, le sentiment d'insécurité, c'est quelque chose de très polymorphe. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir peur dans les transports en commun, quand on rentre du boulot, d'être victime d'un pickpocket, d'avoir peur d'être agressé physiquement ou sexuellement lorsqu'on sort le soir, vous voyez. Et on ne traite pas ces deux émotions, ces deux sensations, ces deux perceptions de la même manière.
Est-ce que vous diriez, par rapport à ce que vous évoquiez sur la nécessité de davantage d'études, de différents corps de métiers pour travailler sur cette question de l'insécurité, qu'aujourd'hui, cette question appartient trop aux médias ? Julien Noble ?
Je sais pas. En tout cas, je pourrais difficilement vous dire ça. Je passe ma vie à travailler
sur ces questions.
Aux réseaux
sociaux, donc... parce que vous avez évoqué les réseaux sociaux, et Thierry Clerc a rebondi aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui reprennent les médias, souvent.
Mais disons qu'il y a une résonance très importante, effectivement, et c'est ce qu'on traduit, c'est ce que traduisent bien cette impression, ce sentiment fortement ancré selon laquelle la délinquance augmente fortement en France. Maintenant, Une fois qu'on a, on a passé ça, c'est-à-dire qu'il y a deux choses ici. Il y a ce que pensent effectivement nos concitoyens de la situation, et il y a la manière dont on peut concrètement régler le problème. Et je pense que là, on a deux sujets bien différents, si vous voulez.
Thierry Clerc, est-ce que vous pensez qu'il est possible de dépolitiser cette question ? Vous n'êtes pas politique, hein. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat INSA Police.
Secrétaire général.
Pardon ?
Secrétaire général depuis le mois de mai.
Secrétaire général depuis le mois de mai du syndicat INSA Police. Pardonnez-moi.
Oui, non,
est-ce qu'on peut dépolitiser cette question ? On a l'impression que la question de l'insécurité appartient toujours plus à la droite et de moins en moins à la gauche. Et c'est aussi une question qui fracture la société.
Bon, écoutez, je suis rentré dans la police, je peux jouer l'ancien combattant, mais dans les années 90, et déjà dans les années 90, la sécurité a toujours été un thème très politique. Usé par les uns et par les autres. Vous savez, quelquefois on nous aime à l'extrême, on nous déteste à l'extrême, mais la réalité, elle est bien au milieu, et le policier, il est bien tout seul pour assumer ses missions, des missions qui sont compliquées, qui sont difficiles. Vous avez affaire à la violence, vous avez affaire à des situations compliquées, à la misère sociale, la misère dans toutes ses formes, en réalité, des collègues qui interviennent sur des violences intrafamiliales, souvent d'ailleurs au sein des mêmes familles, bref, des difficultés d'intervention et puis une violence surtout qui s'accroît au fil du temps. Et c'est vrai que tout ça, c'est pas forcément chiffré, c'est pas forcément dans des statistiques, mais notamment des mots, une absence de respect total vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis de la fonction que l'on peut représenter. Quand vous avez un policier qui a une quarantaine d'années à peu près, qui se fait traiter par tous les mots par un jeune qui a 15 ans et qui, effectivement, ce jeune-là sait que le policier ne pourra pas répondre de la même façon. Vous voyez, il y a quand même des frustrations de la part de nos collègues qui sont encaissées. Bref, il y a une difficulté qui est bien réelle, psychologique. Voilà, donc,
et des formes, on l'a dit, d'insécurité qui sont de plus en plus violentes.
Et des formes d'insécurité qui sont de plus en plus violentes.
Je vais vous poser la question frontale, puisqu'on approche de la fin de l'émission. Pour vous, est-ce que vous diriez que l'insécurité est en hausse en France ? Et je vais poser...
Moi, je dirais en tout cas que l'insécurité ne baisse pas. L'insécurité ne baisse pas, les missions de police sont toujours aussi importantes. Il faut véritablement qu'on s'adapte, qu'on adapte nos conditions de travail, nos conditions d'emploi au sein de notre ministère. Véritablement, il y a un vrai sujet matériel, il y a un sujet sur l'investigation qui est bien réel, sur lequel on doit impérativement évoluer.
Et Julien Noble, moi j'aimerais savoir de votre côté, comment ça se passe à l'étranger ? Est-ce que la France est un pays, un des moins sûrs parmi les voisins européens ? Est-ce qu'on a quelques données là-dessus ?
Oui, on a quelques informations. Non, on ne fait pas partie des moins sûrs.
Voilà, c'est ce qu'on peut croire,
de mémoire. Parfois. Alors, je ne regarde pas, je n'ai pas regardé les chiffres à l'échelle européenne depuis longue date, mais de mémoire, on se situe dans une moyenne, dans la moyenne des pays. On ne fait pas partie des pires, on ne fait pas non plus partie des meilleurs.
Et alors vous, je vous pose la question, parce qu'encore une fois, il nous reste quelques secondes, on a bien compris qu'on ne peut pas donner une réponse claire. Elle ne baisse pas, nous dit Thierry Clerc, l'insécurité. Vous répondez quoi, vous, à la question « Est-ce que l'insécurité est en hausse en France ?»
Difficile, effectivement, de répondre sur les trois dernières années. Je vais vous dire ça comme ça. Maintenant, à partir, en mettant de côté les trois dernières années, je vous invite tous à aller consulter le site de l'Observatoire scientifique du crime et de la justice, qui est un observatoire qui cherche à étudier l'évolution des atteintes, vols, agressions, mais aussi du sentiment d'insécurité sur le temps long. Et vous verrez que c'est assez instructif parce qu'on voit effectivement depuis 15-20 ans, l'insécurité et la victimation ont plutôt tendance à stagner.
Et les outils sont importants et vous nous l'avez dit notamment et vous avez appelé à davantage de nouveaux outils et de collaboration entre différents corps de métier, sociologie notamment, pour parler de cette question de l'insécurité et la sortir effectivement des algorithmes des réseaux sociaux qui renforcent ce sentiment d'insécurité. Merci beaucoup à vous deux, Thierry Clerc, secrétaire général du syndicat INSA Police. Merci pour la clarification. Julien Noble, sociologue, ingénieur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce débat du jour qui était préparé par Florence Ponce. Merci à Hélène Avril à sa réalisation. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour. 18h58 ici à Paris, dans un peu plus d'une minute, ce sera le grand journal du soir. Étienne Berger qui arrive en studio ce soir pour ce grand journal du soir. Et puis juste après, dans une grosse demi-heure, ce sera la première édition d'Afrique Soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain.
Allez, on peut jeter un coup d'œil au programme de ce qui nous attend dans 30 minutes.
À la une, la disparition d'un monstre sacré du cinéma africain, Souleymane Cissé, disparaît à Bamako à l'âge de 84 ans. On l'a appris il y a un peu moins d'une heure. Il laissera derrière lui une trentaine de films. Le célèbre cinéaste malien était considéré comme le père du cinéma en Afrique. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo et des tirs et des scènes de pillage passage à Uvira sous la pression de l'avancée de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. En actualité également, le Sénégal et la police nationale qui suspendent jusqu'à nouvel ordre la gestion de la sécurité des combats de Lutz après de nouveaux incidents survenus le week-end dernier. Enfin, soirée Ligue des Champions ce soir avec les barrages retour, Real Madrid-Manchester City et PSG-Brest, rencontre à suivre sur l'antenne de la Radio Mondiale dans la soirée. On en parlera bien sûr avec nos envoyés spéciaux.
Et on en parlera dans le Journal des Sports dans 15 minutes, juste après le grand journal du soir qui débute dans moins d'une minute. Le dossier sera consacré à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui est la cible de Donald Trump. Ne bougez pas, on revient dans 30 secondes sur la Radio Mondiale.